Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous bien aujourd'hui? Aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais terminer avec vous la méditation, les réflexions et sûrement des exhortations que le Seigneur nous adresse à travers la lecture commentée de ce quatrième commandement, honore ton père et ta mère. Nous allons voir quelques aspects. Et ensuite, je n'irai pas jusqu'au bout, je ne commenterai pas le cinquième paragraphe qui s'appelle Les autorités dans la société civile, devoir des autorités civiles, devoir des citoyens, la communauté politique et l'Église. Je vous laisserai lire, si cela vous intéresse, le catéchisme au paragraphe 2234 et suivant. Car il nous faut avancer et j'aimerais la semaine prochaine, parler avec vous du cinquième commandement et ensuite, eh bien, parler peut-être un peu des choses qui vont nous approcher progressivement de la semaine sainte et de cette fin de carême qui s'approche à grands pas et dont il va falloir nous occuper sérieusement dans le cœur pour nous nourrir de cette richesse extraordinaire du mystère du Christ qui se livre jusqu'au bout par amour pour nous. Voilà un petit peu le programme. En attendant, plongeons tout de suite cette catéchèse dans le cœur immaculé de Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais lire le paragraphe 2225 et suivant. Nous sommes donc en train de regarder la famille et la famille et sa dimension, son lien avec le royaume. Nous allons voir ça. Par la grâce du sacrement de mariage, les parents ont reçu la responsabilité et le privilège, chers parents, d'évangéliser leurs enfants. Responsabilité et privilège, c'est une grâce. Une grâce qui vient d'où? De Dieu, certes. Du sacrement de confirmation, certes. Du sacrement du baptême, certes, mais aussi par la grâce du sacrement de mariage. Ah! Ils les initieront dès le premier âge au mystère de la foi, dont ils sont pour leurs enfants les premiers héros. H, E accent aigu, RAUTS. Allez, faut d'être les héros. H. E accent aigu, ROS. Ils les associeront dès leur plus tendre enfance à la vie de l'Église. Les manières de vivre familiales peuvent nourrir les dispositions affectives qui, durant la vie entière, restent d'authentiques préambules et les soutiens d'une foi vivante. L'éducation à la foi par les parents, doit commencer dès la plus tendre enfance. Elle se donne déjà quand les membres de la famille s'aident à grandir dans la foi par le témoignage d'une vie chrétienne en accord avec l'Évangile. La catéchèse familiale précède, accompagne et enrichit les autres formes d'enseignement de la foi. Les parents ont la mission d'apprendre à leurs enfants à prier et à découvrir leur vocation d'enfant de Dieu. La paroisse et la communauté eucharistique est le cœur de la vie liturgique des familles chrétiennes. Elle est un lieu privilégié de la catéchèse des enfants et des parents. Alors, insistons. Bien sûr, les parcours de chacun sont uniques et particuliers, singuliers, avec des hauts et des bas, et puis, bien sûr, nous connaissons toutes ces situations particulières, si particulières. Mais il est bon, frères et sœurs, de nous remettre devant cette invitation du Seigneur qui nous dit: ne délègue pas l'éducation de la foi aux catéchistes, aux prêtres. Comme tu ne dois pas, nous l'avons vu, déléguer l'éducation humaine de tes enfants à l'école. L'école n'est pas là pour substituer les parents, se substituer aux parents dans l'éducation des enfants, l'éducation humaine, mais elle est là pour instruire les enfants. De même, les catéchistes, les prêtres, tout ce qui sont proposés par l'Église, les groupes, les communautés, les paroisses, etc., ne sont pas là pour se substituer à la responsabilité et au privilège qu'ont les parents d'évangéliser leurs enfants. Comment est-ce qu'on évangélise, frères et sœurs? Eh bien, il y a plusieurs manières. Vous savez, comme moi, que les enfants procèdent par imitation. C'est-à-dire qu'ils vous regardent, ils regardent les parents, ils épient les parents. Et ils font pareil, c'est trop mignon d'ailleurs. C'est trop mignon. Quand on donne la communion, par exemple, aux grands, aux adultes, et que les petits-enfants s'amènent pour recevoir la bénédiction, et certains, ils mettent. C'est trop mignon, ils mettent leurs bras en croix pour recevoir la bénédiction, ils se mettent à genoux, c'est parfois un peu maladroit. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est mignon. Parce qu'ils font comme leurs parents font, et ils font comme leurs parents ont dit de faire. Et c'est comme ça, c'est par ce biais-là que cela passe. L'imitation. L'imitation qui se fait dans un lien de confiance et spontané, parce que pour un enfant, papa et maman, ben si, ils ont toujours raison. C'est comme ça. Ils ne se posent pas la question. Ils font tout bien. Donc, si papa et maman disent, eh bien, apprennent par exemple le signe de la croix. Apprennent l'enfant à se mettre à genoux. Apprennent à l'enfant à embrasser le crucifix. Tiens, il faudrait peut-être que vous en achetiez un au passage si vous n'en avez pas. Hein? Embrasser une médaille de Marie, la médaille miraculeuse par exemple de la rue du Bac. Tiens, si vous n'en avez pas, ce serait bien d'en avoir au passage. Embrasser une petite icône que vous avez peut-être, que l'enfant doit avoir auprès de son lit. Eh oui, je peux vous assurer que ça joue. Une petite icône de Marie, porte du ciel, c'est puissant, ça peut sauver une vie. Témoignage personnel, je vous garantis. Ça n'a l'air de rien. Mais un enfant qui apprend des gestes, des rituels, la ritualisation de la vie avec Dieu commence dès le plus jeune âge. Et c'est très important. Nous voyons d'ailleurs des garçons qui, entre 6 et 10 ans, en gros, se mettent à non seulement apprendre les prières de la messe, mais à jouer au prêtre. Comment ça se fait? Mais ils ont vu le prêtre. Il y en a qui s'habillent comme des prêtres, ils lèvent les mains comme les prêtres, ils prennent des choses qui ressemblent à des patènes, des calices, ils jouent au prêtre, quoi. C'est très important. Ça n'a l'air de rien. Mais il y a plein de choses qui se passent dans le cœur des enfants. Quand le cœur est pur, et franchement, il y a des âges comme ça où Dieu passe, mais d'une facilité extraordinaire parce qu'il n'y a pas de résistance. Et le cœur de l'enfant, il boit, c'est une éponge. Et le diable sait que le cœur de l'enfant est une éponge. Et il y va aussi de son côté, de côté de la propagande, et il abîme nos enfants. Alors, nous pouvons faire l'inverse. C'est-à-dire, non pas manipuler les enfants, mais nourrir leur cœur de la splendeur de l'amour de Dieu pour eux. Alors, c'est magnifique parce que il y a une ligne générale, et puis, eh bien, il y a plein de libertés d'initiative. Et puis, il y aura des parents qui vont trouver les trucs. Il y a des parents qui ont plein d'idées, d'autres un peu moins. Mais en tout cas, il y en a qui sont très artistes, qui vont trouver des trucs pour intéresser les enfants, d'autres auront plus de mal. Bon, peu importe. Il y a une grande liberté d'initiative possible. Prière du soir, prière du matin, et puis chacun s'adapte selon le rythme des parents, le rythme du papa, de la maman, de la situation concrète. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas passer à côté. Parce que tout ce qui est semé, frères et sœurs, dans l'enfance, c'est semé précisément. C'est-à-dire, le Seigneur pourra se servir de ce qui aura été semé pour rajouter quelques gouttes à un moment donné, quelques taux d'humidité favorable, quelques lumières, pour que ce qui a été semé, tiens, ça y est, ça démarre, ça redémarre, alors que ça dormait un petit peu. Mais ça a été semé. Alors, s'il vous plaît, frères et sœurs, déjà un, si vous êtes des parents chrétiens, n'attendez pas pour faire baptiser vos enfants. Ne dites pas, il choisira plus tard sa religion, ça n'a aucun sens quand on est parent chrétien. Quand on a reçu l'immense grâce d'être chrétien, pourquoi ne pas donner le meilleur aux enfants? Si tu as reçu le baptême, la grâce d'être baptisé, même si tu es blessé par les membres de l'Église, distingue les membres de l'Église et l'Église. L'Église est ta mère. Et les membres de l'Église sont pécheurs. T'as pris des coups, oui. Mais l'Église ne te blesse jamais, je te signale. L'Église en tant que telle, elle est ta mère, elle te donne toujours la meilleure nourriture, à savoir le Christ. Sa parole, ses enseignements, sa lumière. L'Église ne nous fait jamais du mal. Des membres du corps du Christ, oui. Là, on reçoit des coups, oui. Mais il faut bien distinguer, frères et sœurs. Et parfois, on peut avoir la tentation de jeter l'eau du bain avec le bébé. Et de dire, ben, les gens de l'Église, des prêtres, des évêques, et même d'autres personnes, ils m'ont blessé, j'ai été blessé, du coup, je quitte l'Église. Marre de l'Église. Ben, désolé, mais il faut distinguer quand même. Distinguer l'Église. Qui, elle, ne te fait que du bien 24 heures sur 24. Elle ne fait que ça. Elle est mère. Et les membres de l'Église, dont les prêtres, qui sont parfois non seulement maladroits, mais qui sont tout le temps, enfin, qui sont pécheurs. Et qui peuvent faire du mal. Oui. Et qui font du mal. Oui. Mais distinguons les choses. Distinguons les choses, et cette distinction peut aider les parents blessés par les membres de l'Église à persévérer et peut-être à renouer dans cette, j'aime beaucoup cette expression, responsabilité et privilège d'évangéliser leurs enfants. C'est une responsabilité, un privilège. Ce que tu vas enseigner à tes enfants, ce n'est pas d'aimer le père machin ou la bonne sœur machine. C'est d'aimer Dieu, d'aimer Jésus, d'aimer la Vierge Marie, de fréquenter les sacrements. Parce que tu peux expliquer aussi à tes enfants, justement, ce que c'est que l'Église. Et à quel point Dieu passe à travers l'Église pour venir nous toucher, nous rejoindre, nous nourrir, nous faire grandir, nous pardonner, nous laver. Il y a tant de choses à transmettre. Tant de choses à transmettre. La première chose à transmettre quand on est parent, c'est soi-même, évidemment. On se donne tout entier. Voilà. jusqu'au bout. Ah, si l'enfant est malade, ben voilà, on se lève. S'il faut aller à l'hôpital, ben on va à l'hôpital. Si, voilà, c'est comme ça. On peut pas dire non, ben il attendra demain. Mais la deuxième chose à transmettre, c'est évidemment, en plus de cet amour, il y a le trésor de la foi. Alors l'éducation à la foi doit commencer dès la plus tendre enfance. Sur les genoux de la maman, dirait le pape François. Eh oui. Peut-être certains d'entre vous, vous avez appris, vous avez entendu des jolies histoires sur les genoux de votre mère, de votre grand-mère. On peut écouter des contes, des belles histoires, c'est magnifique. Mais aussi, en plus, il ne faut pas rater la transmission de belles histoires de l'Évangile. Et maintenant, c'est vrai, en France en tout cas, il y a beaucoup de choses qui existent pour les enfants. Je vous renvoie à cette belle émission de Valérie Daubigny sur Éduquer par le livre pour les enfants et la transmission de la foi par la lecture. On raconte des jolies histoires avec des ânes, avec des lapins et avec des éléphants. C'est très, très bien, c'est très important d'ailleurs. Mais il ne faut pas oublier de rajouter aussi la Bible. Parce que la Bible, c'est notre jardin, c'est notre univers. On est chez nous dans la Bible. C'est pour nous la Bible. Et pourquoi nous, catholiques, on dit, ben, ouais, c'est compliqué, c'est sur une étagère. Oui, il y a des belles enluminures, mais est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu es chez toi dans la Bible? Est-ce que tu aimes la Bible? Est-ce que tu manges ta Bible? Est-ce que tu goûtes ta Bible? Si ton enfant voit que tu aimes la Bible, alors il viendra sur tes genoux et il dira: Papa, raconte-moi une histoire. Maman, raconte-moi une histoire. Eh bien, je vais te raconter une histoire. Un père avait deux fils. Racontez l'histoire de Luc 15 à vos enfants. C'est magnifique, il faut que ça s'imprègne. Racontez l'histoire de Jonas et la baleine. Il y a tant de belles choses dans la Bible. Évidemment, la création de l'homme et de la femme, le péché, Noé, son arc-en-ciel, et son arche, et le déluge, etc., etc. Et Jésus sur la croix, et Jésus ressuscité, etc., etc. Les enfants aiment lire. Alors, c'est vrai, l'Évangile, la Bible, c'est un livre tout à fait particulier. Mais les enfants ne sont pas bêtes. Ils sont capables de comprendre. Ils sont capables d'intégrer beaucoup plus que nous ne le pensons. Si nous expliquons bien les choses et si d'abord nous-mêmes nous avons bien intégré deux, trois choses, c'est vrai. Bon. L'éducation à la foi par les parents doit commencer dès la plus tendre enfance. Et là, il y a certains qui disent: Ah ouais, zut, j'ai peut-être moi-même oublié quelques cours de caté que j'avais pris il y a 30 ans. C'est peut-être l'occasion, et en tout cas, Radio Maria est là pour vous aider. Voilà. Bien sûr, l'éducation à la foi, c'est pas simplement transmettre un contenu, mais c'est transmettre une vie. C'est-à-dire qu'il faut que les enfants voient chez leurs parents que les parents ont une relation personnelle avec Dieu. Parce que on peut cacher les choses aux enfants, mais c'est mieux de ne pas être hypocrite. C'est-à-dire de dire: Voilà, je te transmets, moi-même je suis en chemin, mais je prie. Quand je suis en difficulté, il faut que l'enfant voie que son papa, sa maman se tournent vers Dieu. Il n'y a pas 15 000 enseignements à donner. L'enfant, il comprend. Quand c'est compliqué, maman se tourne vers Dieu. Papa se tourne vers Dieu. Quand ça va bien, papa se tourne vers Dieu. Maman se tourne vers Dieu. Comme c'est beau, frères et sœurs, de voir ses parents prier, vous ne trouvez pas? À tout âge, d'ailleurs. Même très âgé, c'est beau de voir ses parents prier. C'est beau de voir ses parents communier. C'est beau de voir ses parents s'éteindre dans l'amour du Seigneur. Comme Jésus en croix qui remet sa vie entre les mains du Père. C'est beau, c'est bon, c'est vrai, c'est solide, c'est le roc. Il faut, frères et sœurs, que l'enfant comprenne que le cœur de papa, le cœur de maman, eh bien, il y a un trésor. Et le trésor, c'est leur relation à Dieu. Comme ça, eh bien, l'enfant, il va être amené à s'insérer là-dedans et à vouloir lui aussi une relation personnelle avec Jésus, personnelle avec l'Esprit Saint, personnelle avec le Père, personnelle avec la Vierge Marie, les saints. Parce que les parents expliqueront, ben, ce trésor, eh bien, tu as le même trésor, mon enfant. Et donc, le cathé à la paroisse et la vie ecclésiale, ce sera le prolongement. Parce que c'est compliqué pour certains enfants, eh bien, d'être au cathé avec des catéchistes super, bien sûr, comme tous. Mais dans la famille, c'est le désert. C'est pas facile à vivre pour un enfant. Un enfant dont le cœur commence à battre un peu pour Jésus, et puis il est content avec ses copains, avec ses amis, dans le milieu ecclésial, et puis dans sa famille, ben, il n'y a rien. C'est compliqué de tenir, de persévérer pour un enfant dans ce cas-là. Les enfants, à leur tour, contribuent à la croissance de leurs parents dans la sainteté. Tous et chacun s'accorderont généreusement et sans se lasser les pardons mutuels exigés par les offenses, les querelles, les injustices et les abandons. L'affection mutuelle le suggère, la charité du Christ le demande. Je le redis, une famille qui va bien, c'est une famille où l'amour est en premier. Ce n'est pas une famille où il y a des beaux discours, des beaux principes, non. C'est une famille qui s'aime en vérité. Et s'aimer en vérité passe inexorablement par le pardon. Demande de pardon, pardon accordé. Ce n'est pas la fin de toute chose, mais c'est un chemin qu'il ne faut pas fuir et incontournable à pratiquer. Une famille qui va bien, c'est une famille dont les membres savent se pardonner les uns les autres. C'est un témoignage évangélique. Durant l'enfance, et alors, les enfants à leur tour contribuent à la croissance de leurs parents dans la sainteté, ça c'est sûr. La vie familiale, comme la vie sacerdotale d'ailleurs, la vie chrétienne tout court, frères et sœurs, c'est une vie de sainteté. C'est-à-dire que le Seigneur nous travaille tout en permanence, même la nuit. Il taille la vigne pour nous faire porter beaucoup de fruits. Alors, la patience, ah oui, la patience. Le pardon. Et puis, la maîtrise de soi, bien sûr. Dans le cœur, dans les pensées, dans les paroles, dans les gestes. Tout le temps, chaque jour. Ça n'arrête jamais. Ce n'est qu'au ciel où on n'aura plus besoin de se convertir. C'est formidable. Tout sera accompli. Mais nous aurons le ciel de notre terre et pendant notre itinéraire sur la terre, le Seigneur nous travaille. Et le lien parent-enfant est un haut lieu de travail. Parce que c'est compliqué, ce n'est pas facile d'être parent. Il y a les parents, et on les comprend, ils passent par des moments où ils en ont marre. Voilà. Mais ils aiment leurs enfants, oui, mais ils en ont marre. Ils ont envie de claquer leurs enfants, oui, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes juste limité, bon, ne le faites pas, mais. Et donc, c'est un haut lieu de travail de Dieu. Le lien enfant-parent. Et les enfants ne savent pas à quel point ils sanctifient leurs parents. Ils sont merveilleux, mais ouf, merveilleux. Durant l'enfance, le respect et l'affection des parents se traduisent d'abord par le soin et par l'attention qu'ils consacrent à élever leurs enfants, à pourvoir à leurs besoins physiques et spirituels, au cours de la croissance, le même respect et le même dévouement conduisent les parents à éduquer leurs enfants à user droitement de leur raison et de leur liberté. Premier responsable de l'éducation de leurs enfants, nous l'avons vu, les parents ont le droit de choisir pour eux une école qui correspond à leurs propres convictions. Ce droit est fondamental. Les parents ont autant que possible le devoir de choisir les écoles qui les assisteront au mieux dans leur tâche d'éducateurs chrétiens. Les pouvoirs publics ont le devoir de garantir ce droit des parents et d'assurer les conditions réelles de son exercice. Paragraphe 2229. Tiens, on va envoyer ce paragraphe à deux, trois personnes. Hein? Bien sûr, il y a les questions économiques qui jouent. En devenant adultes, les enfants ont le devoir et le droit de choisir leur profession et leur état de vie. Ils assumeront ces nouvelles responsabilités dans la relation confiante à leurs parents, dont ils demanderont et recevront volontiers les avis et les conseils. Les parents veilleront à ne contraindre leurs enfants ni dans le choix d'une profession, ni dans celui d'un conjoint. Ce devoir de réserve ne leur interdit pas, bien au contraire, de les aider par des avis judicieux, particulièrement lorsque ceux-ci envisagent de fonder un foyer. Eh oui. Eh oui. Ils donnent leur avis, les parents. Avis, conseils. Mais ce n'est pas leur vie, ce n'est pas leur choix. Et c'est parfois crucifiant de voir un enfant poser des choix qui ne correspondent pas à ce que les parents voudraient, ou objectivement, parfois il y a des choix qui ne correspondent pas au bien objectif de la personne. Et les parents n'y peuvent rien, à part l'accepter, à part accompagner, à part continuer à aimer leur enfant, en acceptant le choix de tel ou tel enfant. Certains ne se marient pas en vue de prendre soin de leurs parents ou de leurs frères et sœurs, de s'adonner plus exclusivement à une profession ou pour d'autres motifs honorables. Ils peuvent contribuer grandement au bien de la famille humaine. La famille et le royaume, maintenant nous allons terminer cette catéchèse par le quatrième petit chapitre qui s'appelle La famille et le royaume. Les liens familiaux, s'ils sont importants, ne sont pas absolus. De même que l'enfant grandit vers sa maturité et son autonomie humaine et spirituelle, de même, sa vocation singulière qui vient de Dieu s'affirme avec plus de clarté et de force. Les parents respecteront cet appel et favoriseront la réponse de leurs enfants à le suivre. Il faut se convaincre que la vocation première du chrétien est de suivre Jésus. Jésus dit dans l'Évangile, au chapitre 10 de l'Évangile selon saint Matthieu, verset 37, Qui aime père et mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Devenir disciple de Jésus, c'est accepter l'invitation d'appartenir à la famille de Dieu, de vivre en conformité avec sa manière de vivre. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Les parents accueilleront et respecteront avec joie et action de grâce l'appel du Seigneur à un de leurs enfants de le suivre dans la virginité pour le royaume, dans la vie consacrée ou dans le ministère sacerdotal. Je voudrais commenter ces trois derniers paragraphes qui sont juste magnifiques. C'est magnifique parce que cette phrase que je viens de lire est splendide. Les liens familiaux, s'ils sont importants, ne sont pas absolus. Et voilà que nous pouvons nous retrouver les uns les autres, membres de la famille naturelle, à un autre niveau qui est surnaturel. De sorte, frères et sœurs, que lorsque nous devenons chrétiens et que nous vivons de la vie chrétienne, voilà qu'il y a un nouveau lien qui s'établit entre papa et enfant, maman-enfant, et même frères, sœurs, tonton, tantine, grand-père, grand-mère, tout ça. C'est que tous ces gens-là deviennent nos frères et sœurs. En Jésus. En Jésus, maman, c'est ma sœur. En Jésus, papa est mon frère. Et même, pour le prêtre que je suis par exemple, mes parents deviennent mes enfants. Mon père, de 94 ans, appelle son fils mon père, parce que je suis prêtre. Idem pour ma mère. Ça, c'est lié à la grâce sacerdotale. Mais, ce qui est beau de voir, c'est que, en Jésus, nous sommes devenus frères et sœurs de la famille de Dieu. Nous avons Dieu pour Père. Et donc, nous sommes appelés à porter un regard les uns sur les autres, les membres de notre famille naturelle, à porter un regard surnaturel sur chacun d'eux. C'est-à-dire que ma sœur de chair, ma sœur naturelle, petite sœur, grande sœur, eh bien, c'est ma sœur en Jésus qui, comme membre du Christ et membre du corps du Christ, a un chemin, un itinéraire surnaturel à parcourir ici-bas sur cette terre qui est ordonné à la vision béatifique, ordonné au ciel. Et donc, ça fait un autre type d'accompagnement que simplement d'avoir une affection fraternelle, naturelle, avec pour son frère, sa sœur, son papa, sa maman, ses enfants, etc. Il y a quelque chose de nouveau qui nous est donné. C'est la visée surnaturelle. Et encore une fois, ça provoque un autre type d'accompagnement. Nous sommes frères et sœurs et nous cheminons vers le ciel. Et cela est non seulement splendide, mais très important parfois pour... Justement, lorsque notamment il y a des souffrances, des difficultés, où on peut se coller, on peut être comme fusionné dans le problème de mon frère, de ma sœur, de mon papa, de ma maman, et on est englouti dans ces choses. Et on oublie, on pourrait oublier, que c'est Jésus qui est le sauveur du membre de ma famille. Ce n'est pas moi, ce n'est pas nous. C'est Jésus qui sauve, c'est l'Esprit Saint qui accompagne, qui console, qui fortifie, qui sanctifie. Ce n'est pas nous. Et donc, ça permet d'ajuster notre manière de nous aimer les uns les autres, et c'est loin d'être facile, c'est-à-dire d'apprendre à nous aimer les uns les autres dans la charité. Saint Thomas d'Aquin disait que il était plus facile d'aimer de charité son ennemi, c'est-à-dire celui qui nous fait du mal, celui qui nous veut du mal, celui qui raconte des carabistouilles sur nous. Bref, c'est plus facile de l'aimer, celui-là, de charité, parce qu'on sait que... Parce qu'il n'y a pas d'amour naturel. Il n'y a pas ce lien charnel qu'il peut y avoir entre frères et sœurs, entre parents, enfants, cousins, etc. On est dégagé de cela dans la charité, parce qu'on est au-dessus. On n'est pas complètement au-delà, parce que la grâce ne supprime pas la nature. Mais ça donne un espace intérieur, Ça donne un coussin intérieur, ça donne une visée, une hauteur, une profondeur, qui nous permet de nous aimer de charité en intégrant ce lien charnel, mais qui n'est plus un absolu, qui n'est plus tout seul. Pourquoi? Parce que précisément, mes parents sont devenus mes frères et sœurs. Idem pour les enfants, idem pour le conjoint. Idem pour le conjoint. Votre conjoint, c'est votre frère en Jésus, votre sœur en Jésus. Et c'est une immense grâce que de pouvoir avoir cette visée qui nous permet de nous, encore une fois, de nous accompagner jusqu'au bout, d'aller, de vivre le jusqu'au bout de l'amour. Le jusqu'au bout de l'amour, ce n'est pas que nos frères et sœurs naturels, charnels, aillent bien. Le jusqu'au bout de l'amour, accompagner quelqu'un jusqu'au bout dans l'amour, c'est l'accompagner jusqu'au ciel. Et nous irons tous au ciel dans un état cabossé, de chez cabossé. Les uns, ce sera avec un cancer, les autres, ce sera avec je sais pas quoi. On entre tous borgnes. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Bon. Mais le plus important, c'est, par exemple, de prier les uns pour les autres dans une famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que j'exerce la charité à l'égard de mon frère, de ma sœur, de mon père, de ma mère, de mon enfant, de mon cousin, de ma cousine. Mais je suis en train de le déposer sur la patène à la messe. Je suis en train de le déposer dans le cœur de Dieu, dans les bras du Père, dans le cœur du Christ, dans les bras de Marie. Telle personne. C'est donc éminemment surnaturel. Et ça permet de nous aimer avec une plus grande profondeur que s'il n'y avait pas cette dimension surnaturelle. Si Jésus n'était pas là, on serait resté avec un plafond qui est ce qu'il est, mais un plafond. Tandis que là, avec Jésus, il a fait sauter le plafond. Et nous pouvons nous aimer d'un amour de miséricorde, d'un amour de compassion qui vient de Dieu, qui vient de Jésus. On comprend mieux. Du coup, cette parole de Jésus qui dit qui aime père et mère plus que moi n'est pas digne de moi, et qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi, car désormais, chère maman, tu es priée d'aimer ton fils, ta fille, avec l'amour de Jésus dans ton cœur, s'il vous plaît. Idem pour le conjoint, pour etc. Tous les liens familiaux doivent être visités, purifiés, évangélisés. Tu ne sortiras pas de là sans avoir donné jusqu'au dernier sou. Ben oui, forcément, il faut que le vieil homme soit ruiné, frères et sœurs. Parce que tant qu'il a encore un peu d'épargne, si vous voulez, il va gérer son amour, il va gérer sa vie affective, il va gérer ses liens familiaux, parce qu'il est encore au centre. Le vieil homme est encore au centre de sa vie. Et il se cherche à se sécuriser en permanence, parce qu'il a peur de perdre. Il a peur de tout. Mais l'homme nouveau, il n'a plus peur de rien. Amen. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.